Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre presque encore à l'heure du déjeuner. Vous avez de la chance, vous pouvez manger pendant que nous on parle, mais pour nous c'est moins le cas. En tout cas, merci de nous rejoindre pour une table ronde, alors qui pour le coup va vraiment être dans la thématique de ce salon 2018 des Imaginales, puisque vous savez, le thème central ce sont les créatures. Et là, je vais employer un mot qu'il ne faut absolument pas prendre de manière péjorative, mais on va avoir un bestiaire relativement large avec nos auteurs présents autour de la table. Vous verrez, on aura un petit peu de tout, on aura un panorama très différent. On aura également des genres très différents. Enfin, pas forcément des genres, parce qu'on sera beaucoup quand même dans la fantasy, mais en tout cas, des structures littéraires assez différentes. On aura presque des nouvelles, je pense, Eric Hamon, on peut parler comme ça. Enfin, ça, vous nous expliquerez ça au fur et à mesure. Et puis, des romans beaucoup plus longs, même certaines sagas pour Cassandra. En tout cas, elle nous expliquera également tout cela. Bref, on va voyager à travers ces personnages étranges, mais qui sont ceux aussi qui nous attirent vers ces genres de l'imaginaire. Et je vais commencer avec Stéphane Plateau, puisqu'il est prix Imaginal pour Manèche, ça, 2014, c'est ça ? 2013 ? 15 ? Je te vieillis, non. Et puis, qui continue à creuser le sillon de cet univers très particulier, y compris en nous emmenant avant ce cycle central romanesque à travers un certain nombre de nouvelles, dont Dévoreur, dont nous allons parler dans cette table ronde, puisque à l'intérieur de Dévoreur, il y a cette image un peu particulière de l'ogre qui est omniprésente. Stéphane, la question des créatures, justement, quand on est un auteur de fantasy, qu'on est en train d'essayer de construire un univers on espère être original et captivant pour le lecteur, comment justement est-ce qu'on réfléchit aux créatures qu'on va mettre en œuvre et comment qu'on va animer dans ces univers-là ?
Je pense qu'au départ, ça part de l'envie de faire une relecture ou de réexploiter des monstres. C'est très très rare d'inventer vraiment un monstre nouveau, et la résonance est beaucoup plus forte si le monstre existe déjà quelque part dans les mythes et légendes. Le légendaire, le fond mythique, c'est une œuvre collective, et c'est en peaufinant, en apportant des lectures différentes, qu'on arrive à des formes vraiment intéressantes, en s'appuyant sur ce qui est déjà là dans l'imaginaire, sur ce qui a été fait avant. Moi, je travaille mes monstres un peu comme le symbole de quelque chose, ou comme le révélateur d'un aspect de la nature humaine, ou d'une problématique humaine, ou de quelque chose. Dans Dévoreur, c'est assez parlant, puisque c'est le mythe de Cronos. L'ogre, c'est aussi le mythe de Cronos. Et derrière le mythe de Cronos, il y a toute une série de thématiques à traiter, qui me paraissent intéressantes. La question de la paternité, mais plus généralement la question de notre propre immortalité ou non. Vous connaissez peut-être d'abord le mythe de Cronos. Pour rappel, c'est ce géant originel qui mange ses enfants pour ne pas qu'un jour il lui succède, et qui donc, tant qu'il les mange, est immortel, mais le jour où l'un d'eux va grandir, il va prendre sa place, le tuer, prendre sa place. Et d'ailleurs, la notion de temps est associée à ce passage de génération. Eh bien, le mythe de l'ogre, en tout cas tel que je le traite là, c'est un peu ça. C'est vraiment la question, quelle place prend-on pour soi-même et quelle place laisse-t-on aux générations futures ? Quelle limite accepte-t-on d'avoir ? Le simple fait d'avoir un enfant est déjà tellement chronophage, les pères et les mères le savent bien, qu'en soi, tu renonces à une partie de tes potentiels pour t'occuper de cet enfant. Tu renonces à une part de ta liberté, une partie de ce que tu pourrais faire de ton temps. Et c'est une forme de sacrifice au bénéfice des générations futures. Moi, c'est pour ça que ce bouquin, d'ailleurs, a été vu un peu comme, par certains chroniqueurs, comme une fable écologique ou comme une métaphore de notre propre société. Et ils n'ont pas tort, ça fait partie des lectures que j'avais en tête. Il y avait la question de la paternité, tout simplement, mais il y avait la question aussi vraiment de ça. On est dans une société où on ne se donne plus de limites à notre génération, où on surexploite, où on tend vers une certaine envie d'immortalité, et où on ne pense plus du tout aux générations futures. On fait moins d'enfants parce qu'on a moins envie de sacrifier aussi une série de choses. Et puis c'est la question de la mort. En fait, je pense que Dévoreur est né dans un cours de philo à l'UNIF il y a longtemps. On avait un professeur de philo qui était un cancéreux multirécidiviste. pour ne pas dire impénitent. Et il faisait un cours sur la mort, sur le sujet de la mort, sur le déni de la mort dans notre société, qui m'a beaucoup marqué, dans lequel il expliquait que au XVIIe siècle, au XVIIIe, jusqu'au philosophe des Lumières, on acceptait de mourir pour une raison très pratique, qui est qu'il n'y avait pas une croissance agricole infinie. Il y a eu des pics de croissance agricole, hein, au Moyen-Âge notamment, mais qu'il fallait à un moment, pour que tes enfants héritent de la terre, il fallait accepter de mourir, tout simplement. Il fallait laisser la place aux générations suivantes. Je trouvais ça assez bouleversant comme notion par rapport à ce que nous, on a construit par-dessus.
Cassandre O'Donnell, on va parler avec vous d'un cycle qui démarre. Alors, quand je dis qui démarre, c'est peut-être pas tout à fait vrai, parce que c'est une continuité avec ce que vous avez fait précédemment, c'est ça ?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout. En fait, c'est vraiment un nouveau cycle.
Ah oui, parce que Rebecca Keane, c'est une série qui est pour les adultes à la base, qui était d'urban fantasy, avec effectivement un bestiaire assez large, de créatures plus diverses les unes que les autres. La Légende des Quatre, je me suis vraiment concentrée sur les métamorphes. Mais là, c'est pareil, ça dépend en fait. Ce qu'il y a, c'est que, par exemple, je reviens sur ce qu'avait dit Stéphane. Souvent, effectivement, on utilise des monstres déjà utilisés par les légendes que tout le monde connaît, etc. Et moi, quand j'avais créé la série Malenfer, c'est avec les classes de CM1 et CM2, qui est une des grosses séries pour les 8-11 ans. Et les enfants m'ont demandé un truc. La première chose qu'ils m'ont dit, parce que ce sont eux qui décident, et ils m'ont dit, on voudrait que vous inventiez un monstre qui n'existe pas, qu'on a vu nulle part ailleurs. Donc j'ai inventé le Waligou. Donc nous, il nous arrive aussi en tant qu'auteur de se dire, effectivement, là j'ai accueilli là, évidemment la demande des enfants, mais la plupart du temps on fabrique nos monstres. Dans Rebecca King, il y a des monstres de toutes sortes, y compris des ragondins, garous, médecins légistes, vous voyez, des trucs complètement délirants. Et c'est ce qui rend la série aussi amusante, je pense. Et pour La Légende des Quatre, effectivement, je me suis concentrée sur les métamorphes. Et là, c'est une série qui s'adresse plutôt aux 12-14 ans, c'est-à-dire la suite de Malenfer, Rebecca Keane étant pour les adultes à la base, et La Légende des Quatre, en même temps c'est une métaphore, et là je rejoins complètement Stéphane, on aborde l'écologie, on aborde, et ces créatures qui sont mi-humaines, mi-animales, c'est toute la question de savoir qu'est-ce qui fait de nous un être humain, qu'est-ce qui fait d'un animal un animal, et quelle est la part d'animalité qu'on a en nous.
Et le risque de basculer vers l'un ou vers l'autre.
Et le risque de basculer, et qu'est-ce qui va dominer, quels instincts vont dominer.
On va en reparler évidemment tout au long de cette table ronde. David Brie, Que passe l'hiver ? Alors c'est un très très beau roman d'abord, je vais le dire franchement parce que c'est extrêmement sincère. Et il se trouve qu'on a, on le voit bien sur la couverture d'ailleurs, on a deux personnages principaux, même si l'un prédomine en tout cas en présence par rapport à l'autre, qui sont des personnages assez particuliers. D'ailleurs le roman s'ouvre d'une manière originale puisque nous regardons, si je me souviens bien, le décor, le paysage à travers l'œil d'un oiseau.
Oui, tout à fait. C'est le prologue du roman où on voit un corbeau qui s'approche d'une montagne et on sent que cette montagne est particulière avec des constructions tout en haut de cette montagne. Et ce corbeau survole la montagne. On comprend et il dit son envie et son attrait pour cette montagne. Et moi, il y a une scène que j'ai adoré écrire dans ce roman et dont je parle régulièrement. C'est le premier chapitre, juste après le prologue dont tu parles, où on voit ce corbeau qui retrouve une sente au milieu de la forêt, une sente enneigée. Le roman se passe dans la neige de la première à la dernière page. Et sur cette sente, il y a des cavaliers qui avancent. Et ce corbeau descend, s'approche de la cime de la forêt. Et alors qu'il s'approche de la sente, commence à se transformer. Il y a ses ailes se transforment en bras, ses pattes dont l'une est tordue se transforment en jambes, et on lit ce corbeau qui se transforme en homme. Et au niveau de la créature, c'est une image moi, que je trouve très fascinante, cette transformation. Alors on est sur les métamorphes dont on a déjà parlé, mais effectivement, j'ai beaucoup tripé, pour parler de manière un peu sur cette transformation. Ouais. Et juste un petit aparté par rapport à ce que vous disiez tous les deux sur la signification de la créature. C'est exactement ça, c'est qu'on réutilise des choses qui ont déjà été faites. Mais je crois qu'il y a une raison qui est très simple, c'est qu'en fait, une créature existante, je crois qu'elle est beaucoup plus forte que des mots. C'est-à-dire que sur la couverture, on voit donc Styx, ce jeune homme qui se ressemble en corbeau. Et derrière, il y a le roi de l'hiver qui est mi-homme, mi-dieu, qui a des grands corps de cerf sur le front. il fait évidemment penser à Cernunnos, le dieu celte, mais je pourrais passer 30 pages à parler de Cernunnos et de rappeler qu'est-ce qu'il y a derrière Cernunnos, sauf qu'une image et dire que ce roi a des cors sur le front, ça résume 30 pages en une seule image, et c'est cette image de la créature ou du monstre que tout le monde connaît plus ou moins, mais, et elle parle sans les mots. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire dans les créatures.
Alors la transition vers Eric Hamon est tout trouvé, parce que les créatures sont vraiment au cœur de l'éveil des chimères, dès le titre finalement, puisque les chimères sont déjà présentes. Alors peut-être avant, pour qu'on comprenne bien, Eric, quel était le projet de ce livre? Parce que quand on entre dedans, on s'attend peut-être à quelque chose, et puis finalement on se rend compte assez rapidement que ça ne va pas du tout dans le sens qu'on imaginait, et surtout... on n'a pas forcément énormément de repères au départ. Il faut avancer un petit peu dans le livre pour comprendre qu'il y a quelque chose, et que finalement, si on attend à lire un roman, on se trompe, parce que finalement, on est plus dans un recueil de nouvelles.
Bah, disons que c'est un petit peu particulier, effectivement. J'ai lu une chronique récemment qui parlait d'un roman portrait avec le pluriel. Et ça pourrait coller aussi, en fait. C'est-à-dire que ce que je voulais mettre en avant, et c'était vraiment au cœur du roman ou du recueil, c'était la diversité des monstres, justement. Le souligner à travers chaque personnage qui va être une créature chimérique. Donc là aussi, inspiré plus ou moins de la mythologie grecque et d'autres bestiaires. Il y a aussi quelques créatures qui sont librement inventées, plus ou moins. Il y a des variations. Mais c'était, effectivement, j'emprunte le fonctionnement de l'anthologie thématique pour faire fonctionner mes chapitres, où je vais présenter dans chaque chapitre un instant de vie de chacune de ces créatures. C'est sa vie individuelle. Comment va-t-elle faire dans ce monde on va dire médiéval fantastique, mais où la magie n'existe presque plus et où les humains dominent. Il reste quelques chimères, elles essayent de vivre. Et donc ça, c'est le point de départ qui les unit toutes. Mais après, je voulais montrer la diversité, donc faire d'un chapitre à l'autre, choisir des cas de figure complètement différents.
Et des points de vue, et ça on y reviendra oui, dans le cours de cette table ronde, parce que c'est un des éléments très importants du livre et qui donne parfois des situations très étonnantes et très surprenantes, donc on en dira là-dessus. J'ai une question qui va s'adresser à vous quatre unanimement, parce qu'il y a un truc qui m'a surpris là, c'est pour ça que je reprenais le programme pour regarder le titre exact de notre table ronde. Dès le départ, vous avez tous utilisé le mot monstre, qui n'apparaît pas dans le titre de cette table ronde. On parle de créatures surnaturelles, ce qui n'est quand même pas tout à fait pareil. Je voulais savoir justement, voilà, pourquoi justement ce mot presque, et c'est Stéphane qui a commencé finalement, pourquoi il t'est venu naturellement ce mot de monstre ? Avec un sens qui quelque part est quand même très marqué.
Le monstre n'a pas forcément une connotation négative, c'est plutôt le fric, quelque chose de différent. Donc ça peut aussi bien... et puis c'est aussi quelque chose qui est à la frontière de notre inconscient, à la frontière du sommeil. C'est ce qui est caché sous le lit aussi, le monstre sous le lit, le monstre dans le placard. C'est tout ce que ça véhicule derrière. C'est plein de choses inconscientes qui sont tapies.
C'est le croque-mitaine.
Ouais, c'est tout ça. Mais la monstruosité, c'est aussi intéressant de l'exploiter en tant que vivre la différence, vivre sa différence... la difficulté à la vivre. Donc c'est un autre sens qu'on peut aussi donner au mot monstre, et qui est intéressant et qui est aussi exploité dans la littérature de l'imaginaire.
Cassandra, vers le jeune public, justement, la question du monstre, c'est aussi... parce qu'il y a plein, comme le disait Stéphane, il y a plein d'interactions sur le monstre. C'est celui qui est différent, c'est celui qu'on rejette.
C'est simple, pour mal en faire. À la base, justement, ce qui intéressait les enfants, c'était qu'il y ait des monstres. Ils voulaient des... Alors, parce que c'était une commande des classes de CM1, CM2, qui est devenue un best-seller chez Flammarion.
Et prix imaginal.
Et prix imaginal, exact. Et en fait, ce sont les enfants qui m'ont dit, voilà, on veut, il y avait plein de classes, et les enfants m'ont dit, on veut des enfants qui ont des pouvoirs magiques, un garçon, une fille, pour s'identifier évidemment. Ils voulaient une forêt qui mange les gens, et là encore, on est à la suite du merveilleux, bien évidemment, et cette maudite forêt qui revient dans bon nombre de contes d'ailleurs. Ils voulaient un dragon, et des professeurs monstres, justement. Ça, ça les intéressait, les professeurs monstres. Donc, tout cet imaginaire que moi, qu'on a dans Mal Enfer, moi, que j'avais créé dans Rebecca Kyn. Dans Rebecca Kyn, vous avez des chamanes, des potionneuses, extrêmement, des communautés assez diverses et qui cohabitent pas toujours facilement. Mais d'une manière ou d'une autre, les enfants, leur commande était claire. Le monstre. C'est la première chose qui vient à l'esprit. Alors après, le monstre, pour eux, il y a des monstres gentils, entre guillemets, et des monstres méchants.
Ça me rappelle quelque chose, ça, les monstres gentils.
Je suis d'accord avec Stéphane. Pour le coup, le mot monstre n'est pas forcément péjoratif.
Voilà, c'est ça.
Du tout. C'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui est capable de faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Voilà,
mais il y a quand même une envie de se faire peur.
Évidemment qu'ils aiment avoir peur, mais tout le monde aime avoir peur. Je veux dire que objectivement, dans la littérature, et puis ça permet, quand on parle, moi en tant qu'auteur jeunesse, la littérature jeunesse, elle sert à deux choses. À surmonter les épreuves, parce que vous les mettez devant des situations, vous les habituez à des situations, le deuil, la violence, le monde difficile, etc. Et tout ça, ça aide les enfants. Et la lecture, c'est pour ça que c'est aussi important pour eux. C'est que ça les aide à surmonter des choses auxquelles ils ne sont pas forcément confrontés et mieux les préparer. Donc, c'est très important. Et leur faire peur, la peur, affronter ces peurs, devoir les surmonter, ça, c'est la première des choses qu'on fait. Donc, en tant qu'écrivain jeunesse, évidemment qu'on aime leur faire peur. Et moi, j'adore les terroriser, hein, personnellement.
David, est-ce qu'on peut parler de monstres dans Que passe l'hiver ? Parce qu'on est dans un univers où on a quatre clans qui se retrouvent pour un événement autour justement de ce roi particulier avec ses bois de serre. Mais finalement, le fait que ces quatre clans aient chacun un don particulier, il y a une habitude finalement de cette étrangeté entre eux, c'est qu'ils ne se regardent pas en chien de faïence, enfin pas pour ces raisons-là en tout cas.
Oui, pas pour ces raisons-là. Oui, il y a la seule définition du monstre moi, que je garde pour Que passe l'hiver, c'est le côté plus grand qu'eux, parce que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que le monstre il est plus grand que son image, il véhicule avec lui tout ce qu'on met dedans. Et du coup c'est très fort en termes de symbole. Après il y a deux types de créatures dans Que passe l'hiver, il y a effectivement le roi qui est une créature avec ses bois de serre, et chaque clan qui effectivement a un pouvoir particulier. Alors après ils sont plus ou moins proches de l'aspect monstrueux, on a ceux qui se transforment en animaux, c'est l'un des clans dont c'est le pouvoir, et dont comme le corbeau dont je parlais tout à l'heure.
Ouais, qui colle le mieux à notre tableau ronde, c'est pour ça que j'ai ouvert avec.
Ouais. Et après, les autres clans, en effet, eux, ils ont des pouvoirs, que ce soit un pouvoir de faire appel aux esprits de la clairière, qui sont les esprits du monde dans lequel se déroule le roman. Il y a ceux qui ont le pouvoir de lire l'avenir dans leurs rêves, qui est un pouvoir qui peut être monstrueux. Et enfin, il y a le dernier clan, eux, leur pouvoir, c'est de voyager avec la nuit.
Alors, ça cela, je... Enfin bon.
Et du coup, effectivement, il y a quelque chose que j'aime dans cette image-là, c'est que dans le monde de la clairière, les clans ne se mélangent jamais, sauf à chaque fête de solstice. Et du coup, là où nous, dans notre monde d'aujourd'hui, on trouve tous ces pouvoirs assez extraordinaires dans le vrai sens du terme, en dehors de l'ordinaire, le héros Stig qui se transforme en corbeau, pour lui, se transforme en corbeau, c'est tout à fait normal. Si moi, je prends mon vélo, c'est la même chose. Mais Stig, qui vit avec les siens, qui vit avec des gens qui se transforment en ours, comme son père, en loup, comme son frère, ou en d'autres animaux, il trouve extraordinaire et merveilleux, parce qu'il y a un vrai sens du merveilleux.
C'est très marqué.
Oui, ouais. Et c'est je trouve que c'est une qualité magnifique de pouvoir s'émerveiller. Et Stig s'émerveille beaucoup, et Stig s'émerveille du pouvoir des autres clans. C'est-à-dire que lui, se transforme en corbeau, c'est normal, mais rencontrer quelqu'un qui sait lire l'avenir des hommes quand il rêve, rencontrer quelqu'un qui disparaît dans la nuit, rencontrer quelqu'un qui parle aux esprits de la clairière, que ce soit l'esprit d'un fleuve ou d'un caillou, il trouve ça extraordinaire.
Eric, sur les monstres, il y en a quelques-uns. Moi, j'ai une nouvelle, un chapitre qui me revient à l'esprit qui s'appelle « Difforme », je crois, qui pour moi est une illustration assez parfaite de ce qui vient d'être dit. Alors, je ne sais pas si on peut la raconter ou...
Oui, pourquoi pas.
Bah, je vous laisse faire alors.
C'est l'une des plus courtes, donc celle-là...
C'est pour ça que je me permets...
Au moins, on peut la qualifier de nouvelle, c'est la plus sûre, avec une chute, etc. Donc on a un jeune...
On retrouve des archétypes de contes aussi, d'ailleurs, on va le voir, hein, oui, quand vous allez le raconter.
Bon, là, il y avait un peu d'ironie aussi dans le conte, s'il s'agissait d'être... Donc on a un jeune garçon qui vient d'être recueilli en fait par une famille et il est heureux, il est comme ça et c'était un bon enfant et puis il sait pas trop pourquoi les autres personnes de la famille n'ont pas l'air d'être tout à fait pareil que lui, donc il s'étonne un petit peu, mais bon, c'est un bon enfant,
Et on précise qu'on est dans un univers de fantasy. Donc
dans un univers de fantasy.
C'est un univers assez, c'est un milieu assez pauvre, donc on n'a pas de miroir.
Oui,
on
là,
a pas,
ça se passe en plus dans une zone montagnarde. Là, oui, je peux spoiler ou pas, ça dépend comme vous voulez. Mais oui, et puis c'est mettre petit à petit le doute, en fait. Qui est de quelle race serait cet enfant, puisqu'il a été adopté.
Et qui est le monstre ?
Et qui est le monstre ?
C'est assez. C'est aussi pour ça que je parlais avec vous, Eric, de la question du point de vue, parce que à chaque fois, à chaque nouvelle créature que vous nous présentez, il y a un point de vue particulier, il y a un point de vue différent, et le lecteur, lui. Bah, il est obligé d'attendre finalement presque la fin du chapitre oui. pour arriver à cerner ce qu'il a sous les yeux.
Bah, on part souvent sur une narration à la première personne. Le monstre va dire « je ». Donc il ne va pas forcément dire « coucou, je suis un sphinx, coucou, je suis machin ». Pour lui, c'est naturel. Et donc, c'est au lecteur d'essayer de deviner à travers les petits indices qui vont être disséminés dans le récit, en fonction des capacités du personnage. S'il se met à voler, on sait qu'il a des ailes. S'il se met à détruire une région, on sait qu'il n'est pas forcément très sympathique. Et après, il y a parfois ça sert de chute. On va y avoir la révélation. D'autres fois, c'est annoncé au cours du chapitre. Et puis il y a ces belles illustrations de Laurent Lipsard à la fin des chapitres. Ça aussi, on a bien fait attention pour ne pas spoiler, qui viennent illustrer de quelle créature était l'objet du chapitre en question.
Pour lever vraiment le doute s'il en restait
voilà,
encore.
Voilà, s'il y en avait encore un.
Donc vous verrez, c'est vraiment c'est très. C'est pour ça aussi que je parlais de bestiaire en introduction, parce que là, on est vraiment aussi un peu dans cet esprit-là, hein, d'aller à la découverte de ces créatures et,
oui,
et de leur aspect, même jusqu'à leur aspect visuel. Stéphane, le dévoreur, c'est donc un ogre, sauf que il n'est pas né ogre. Il a peut-être une enfance difficile, mais c'est pas forcément ça non plus qui l'a mené à ça. Il y a aussi ça, cette question, parce que dans les contes plus traditionnels, l'ogre, il est ogre dès le départ. On le rencontre, il est déjà ogre. Toi, tu as imaginé sa genèse, d'une certaine manière.
Alors voilà, ce qui est, je pense, effrayant dans Dévoreur, c'est que le monstre est au départ un humain et que quelque chose de monstrueux va se réveiller en lui. C'est là aussi qu'il y a quelque chose de symbolique. C'est que, on a ce brave montagnard... jovial, qui élève des ânes, qui vit dans sa maison sur une colline isolée. Il y a une voisine qui est l'héroïne du début du récit, qui est une amie. Et un jour, il y a une planète néfaste qui se met à briller trop fort au-dessus de sa maison. Et cette planète, c'est le dévoreur. Et le dévoreur, c'est un des astres les plus néfastes du ciel. Et c'est pas un astre dont l'influence est souhaitable. Donc dans mon univers, globalement, les sentiers des astres, c'est un univers où le cosmos est structuré autour... de 8 astres majeurs et des autres. Et chaque astre a une influence symbolique, mais représente essentiellement des pulsions de la nature humaine qui sont enfouies en nous. Et il est très important d'avoir un bon équilibre entre les astres. Parce que quand il y a un déséquilibre, un astre peut prendre le dessus et ça peut avoir des effets spectaculaires et éventuellement, surtout si c'est un astre néfaste, pas du tout souhaitable. Et donc ici, en l'occurrence, cette planète éveille son équivalent intérieur dans le cœur de l'âme de ce brave homme. Le calice, qui est le cœur de l'âme humaine, qui est un reflet du cosmos. Donc on retrouve les 8 astres majeurs à l'intérieur, pas des copies, les astres eux-mêmes. Et voilà, donc ça va enflammer le dévoreur en lui. Et donc c'est ces pulsions qui sont incontrôlables, qui lui échappent complètement, qui s'enflamment en lui et qui vont prendre le dessus. La pulsion de dévorer, de s'approprier les autres, de s'approprier l'énergie des autres, de grandir de façon démesurée. Cette sorte de pulsion d'immortalité qui se fait au détriment des autres. Et sa voisine, son amie, va essayer de gérer le problème, d'essayer de le soustraire à l'influence de la planète. Et toute la question, c'est une des questions morales du bouquin, c'est jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauver votre meilleur ami si jamais il devient un monstre. Et c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous, ne serait-ce qu'en voyant des proches sombrer, par exemple, dans une pathologie psychiatrique, etc. Jusqu'où j'essaie de le sauver, quand est-ce que je constate que je ne peux plus rien faire pour lui. Et alors, ce qui rend effrayant le bouquin, c'est que c'est un dialogue avec un monstre. Parce qu'on connaît cet homme, c'est un ami. Et ce qui est dur, c'est de voir l'humain rester. On reconnaît toujours l'homme jovial qui vous débine ses pulsions monstrueuses, qui vous parle de ses pulsions de façon totalement effrayante, qui vous explique ses actes. Mais c'est toujours cet homme jovial et sympathique. Et c'est ça qui est flippant à mon sens, c'est que on doit se dire en lisant le livre, mais je voulais qu'on ressente l'idée que mais ça pourrait nous arriver à tous.
Pour ajouter, en fait, toi, c'est une influence dite extérieure, en fait, de l'ogre. Il est devenu, en fait, comme ça. C'est même intérieur. Et pour le coup, c'est exactement ça. On s'en sert aussi, par exemple, dans les Rebecca Kean. Elle a une bête qui vit à l'intérieur d'elle. Cette bête, c'est une forme très étrange de nuage, peu importe. C'est-à-dire qu'une identité propre et qui pense propre et qui tue. Et qu'elle n'arrive pas à contrôler, qu'elle ne peut pas contrôler. Donc effectivement, ce côté influence du monde des créatures magiques, parfois, effectivement, il y a une part... Alors, est-ce que c'est à elle? Est-ce que c'est une partie d'elle qui est sombre? Tout ça, on va le découvrir après. Ou est-ce que c'est un être extérieur qui a pris possession d'elle? Ça, c'est autre chose. Mais on a tous cette partie-là où ils peuvent devenir des monstres et tout à coup, elle est capable, effectivement, de détruire des villes entières. Et donc, le problème pour elle, c'est de canaliser la chose. Et c'est la même chose exactement ce que son ami essaye de faire, en fait. En canalisant la monstruosité dans son personnage, Rebecca essaye de canaliser la bête qui vit en elle.
Ce qui devrait être aussi un des thèmes de la légende des quatre, on va pas trop en révéler, mais ça va évoluer comme ça. On a encore quatre clans, qui sont donc chacun un métamorphe. Vous avez évidemment choisi des animaux qui sont des prédateurs, hein, parce que voilà.
On va découvrir pourquoi après.
Un Yorkshire, ça marchait moyen, quoi.
ça me dérange pas dans Rebecca Kean, mais dans la légende des quatre.
Oui, voilà, c'est ça. Donc là, on a des loups, des tigres, des serpents et des aigles, qui évidemment sont amenés à se côtoyer dans ce qu'on appelle les terres neutres, et qui, au contraire, ont ensuite, lorsqu'ils se retirent dans leurs terres personnelles, ont des clans qui sont là, comme le disait David tout à l'heure, on ne se mélange absolument pas, les règles sont extrêmement strictes, et il y a une violence latente, finalement, entre ces clans.
On est dans un monde post-apocalyptique, la terre a été complètement dévastée, détruite par les humains, il reste une toute petite partie de l'humanité, je dirais une dizaine de milliers de personnes, et ces humains sont surveillés de très près, un peu comme dans la planète des singes, hein. On leur interdit les armes, etc., ils ont fait des grosses bêtises, les humains, dans le passé, et ils sont surveillés par ces quatre clans de yokai. On ne sait pas du tout au départ d'où ils viennent, pourquoi déjà aigle, tigre, on n'a aucune idée, on l'apprendra plus tard. Et effectivement, ces quatre clans surveillent les humains, ils sont d'accord là-dessus, mais eux, en réalité, s'entendent pas très bien entre eux. Et il y a des guerres de territoire. Il reste très peu de surface de la planète encore habitable, respirable. Donc il y a des guerres de territoire entre les yokai. Et effectivement, ces quatre-là, les lupai, les loups, les taïgans, les tigres, etc., se mènent une guerre latente. Disons que ça peut exploser à tout moment. C'est pour ça qu'ils évitent en général tout contact. Sauf que les héritiers des quatre clans vont se retrouver dans la même école. Les choses vont pas se passer aussi facilement que ça.
Et les enfants vont choisir des chemins différents de ceux qu'on...
Disons qu'ils cherchent depuis longtemps la faiblesse de l'autre afin de pouvoir s'entretuer, et ils vont devoir faire face à un ennemi commun. Et là, ça va changer tout leur destin.
David Brie, on a parlé de Styx, qui est un optimiste, un idéaliste, un rêveur, et puis il va se retrouver face à cet autre personnage, face aux autres clans évidemment, mais aussi face à ce personnage de ce roi qui est tout son contraire, en fait, d'une certaine manière. Parce qu'il a une grosse, grosse déprime, quand même, votre roi. Il n'est pas super en forme. Hein.
Le roi, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans ce roman. Il est mi-homme, mi-dieu. Donc c'est le fils du dieu de la clairière et d'une mortelle. Effectivement, il ne respire pas la joie de vivre. Mais parce que le roi, il est très conscient. C'est quelqu'un de très conscient et c'est quelqu'un qui a fait un choix. Et un choix qu'on comprendra ou pas... qu'on partagera ou pas, qu'on comprendra à la fin du roman, mais qu'on partage ou pas. Il a fait un choix qui n'était pas un choix facile. Et j'aime bien cette idée de choix, j'aime bien cette idée de dire, ok, je prends position dans quelque chose qui n'est pas forcément bon et pas, ou pas forcément mauvais, sinon c'est trop facile. Et après, je vais jusqu'au bout de cette décision, pour des raisons que moi je trouve bonnes, mais effectivement. Et je trouve que l'alliance ou la rencontre de ces deux personnages, elle faisait vraiment sens pour moi entre l'idéaliste, celui qui ne lâchera pas, celui qui a été très malmené par la vie, Stig, en l'occurrence, donc le fils cadet du seigneur de ceux qui se transforment en animaux, qui va rencontrer ce personnage très en retrait, qui a choisi de subir. Et du coup, de cette rencontre entre ces deux personnages, c'est là où le destin de toute la clairière, de tout ce monde, va dépendre. Et du choix que chacun fera et que chacun a fait, en fait.
C'est un personnage très important et pourtant il est très en retrait, il est très discret. C'est quelqu'un qui ménage ses apparitions, on va dire. Donc quand on le voit, on se doute que ce n'est pas par hasard s'il apparaît d'un seul coup. C'est un personnage très particulier, très intriguant, très énigmatique, j'allais dire. Il y a un côté sphinx un peu chez lui.
Oui, il est très mutique. Il est très mutique et il pose beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Il y a un échange entre le roi et Stig qui est, je trouve, assez révélateur, où en fait, à un moment, Stig comprend que le roi, c'est bien plus de choses qu'il ne le dit et que le roi ne partage pas avec lui. Et Stig demande pourquoi est-ce que vous ne me dites pas pour que je puisse vous aider. Et c'est là où le roi lui répond qu'il aurait pu le faire, qu'il aurait pu faire de Stig sa marionnette, mais qu'il le refuse. Et c'est toute une notion que Passlivert parle beaucoup du destin, des choix que l'on fait, que l'on peut faire. Et c'est un moment que je trouve très important. Parce que le roi dit à Stig, tu aurais pu être ma marionnette, tu aurais pu être ma main, mais sauf que je te laisse le choix de choisir ton propre chemin. Et je ne te donne pas les clés, parce que si tu ne les trouves pas par toi-même, le chemin que tu prendras, ce ne sera pas le tien. Et effectivement, cela étant, puisque c'est comme ça, puisque le choix lui-même a fait, que le roi pardon lui-même a fait ce choix-là, il le porte sur ses épaules. Et le poids est très très lourd. Et la fin du roman, effectivement, montre à quel point ce poids est lourd.
Il y a une construction qu'on laissera découvrir au lecteur dans ce roman qui est très particulière, mais qui du coup ouvre aussi des portes. Bon, on a eu l'occasion. Pas faire de secret, mais d'en parler en privé il y a quelques mois quand j'avais lu le livre, parce que j'avais appelé ça « Songe d'une nuit d'hiver », en fait. Hein, parce que pour moi, il y avait une filiation avec le « Songe d'une nuit d'été » de Shakespeare, hein, dans le fond comme dans la forme, finalement, avec presque une antiversion de cette pièce.
Alors, je suis un énorme amoureux de Shakespeare, un énorme amoureux du « Songe d'une nuit d'été ». Effectivement, le songe d'une nuit d'été, c'est quelque chose qui se passe l'été, qui est avec le petit peuple, qui est dans la joie, dans l'exubérance de ce petit peuple. Ici, on est dans un roman qui se passe l'hiver, où il neige du début jusqu'à la fin. C'est un huis clos, c'est-à-dire que ça se passe dans un monde, la clairière, qui est un monde clos, qui est cerné de montagnes et de forêts. Et en plus de ça, le roman se passe sur la montagne où réside le roi de l'hiver. Et l'ambiance est lourde. Pourquoi est-ce qu'elle est lourde ? Parce que la mort rôde, la mort frappe. Et ce qui devait être une grande fête se trouve être effectivement un moment qui vire non pas au cauchemar, puisqu'en fait les choses ne sont pas dites et les choses ne sont pas forcément montrées, mais à quelque chose qui n'est pas du tout festif. Après, il y a le côté... J'aime beaucoup Shakespeare, j'adore les tragédies, et j'avais très envie de faire une tragédie. Et je crois qu'il y a aussi une filiation là-dedans, où ce que j'ai essayé de faire, c'est quelque chose qui porte les sentiments humains. Je pense qu'on parle tous que de ça dans nos romans. On parle de l'humain, on parle des sentiments. Et je voulais que cette histoire soit une mise en scène des sentiments les plus forts, que ce soit l'amour, qui est un sentiment qui peut être magique comme il peut être destructeur, qui peut provoquer la trahison, qui peut provoquer la haine, qui peut provoquer les pires décisions. Et c'est en ça, je pense, où effectivement, ça peut le rapprocher, je suis très flatté de cette comparaison, ça peut le rapprocher du songe d'une nuit d'été.
Éric Hamon, on sent que votre univers, on est un peu à la croisée des chemins. Vous le disiez plus ou moins tout à l'heure, mais on va développer un petit peu, c'est que finalement, on ne sent pas... On sent que ces créatures sont à un moment où elles sont dans l'instabilité, dans l'inquiétude, dans la crainte un peu du lendemain d'une certaine manière, de quoi sera fait l'avenir, comment cela va-t-il se passer?
Oui, c'est vraiment un moment crucial même. Est-ce qu'elles vont sombrer dans l'extinction, carrément, ou vont-elles s'éveiller à nouveau, comme le promet peut-être le titre, ou pas?
Ça veut dire aussi qu'on est, dans une réflexion où, qui est assez classique finalement, on le croise régulièrement aux imaginales, sur ce moment où ce qui était finalement, entre guillemets, du domaine du normal, devient du domaine du surnaturel.
Oui, je pense que c'est très important le côté... de montrer l'aspect historique des choses. On a toujours, souvent en fantaisie, il y a les choses qui sont éternelles, qui ne bougent pas peut-être. Et là, c'était montrer que tout passe. Et donc, les chimères ont eu leur époque de gloire. Avant elles, il y avait d'autres monstres encore, c'est dit brièvement. Puis maintenant, c'est le temps des humains et qui ont oublié que les chimères ont existé, qui savent à peu près que la magie a peut-être joué un rôle, mais... bon, ils ne savent plus. Et pour eux, les humains, toutes les chimères sont des monstres et ils vont les voir et puis on va pas trop réfléchir. Ça va être, on va sortir les épées, les torches et on va les brûler.
Le choix du mot chimère, il est tout sauf anodin parce que vous jouez aussi sur les sens de ce mot, les différents sens du mot.
Oui, bien sûr. C'est pas la chimère originelle dans la mythologie grecque qui est un peu plus précise que ça. Mais là, ça comprend toutes les créatures, disons, un peu hybrides. Tous les monstres qui vont avoir de briques et de brocs, un peu de lion, un peu d'aigle et un peu d'humain, par exemple, le sphinx. On a la méduse qui orne la couverture. Donc, un peu humanoïde, mais bon, il y a aussi l'aspect serpent qui joue beaucoup dans sa nature.
Et puis le sens du mot presque figuré, c'est-à-dire que finalement,
le côté vaporeux, ne sait
sur
pas.
Sur des espoirs un peu déçus.
L'aspect, on disparaît du monde concret pour aller dans l'immatériel.
On va basculer vers le mythe.
Voilà, c'est ça.
Vous verrez, c'est vraiment c'est un ouvrage très intéressant parce qu'il y a un vrai voyage et encore une fois, j'insiste sur la question des points de vue, mais qui donne vraiment des choses intéressantes à l'arrivée et des histoires qui restent en tête après la lecture. Stéphane, on va quitter un peu le dévoreur, on va revenir à ton grand œuvre, le cycle du Sentier des Astres, qui se déroule 1000 ans, je crois, après Dévoreur.
Non, c'est pratiquement la même époque.
C'est pratiquement la même époque, c'est Le Roi Cornu qui est 1000 ans avant. Il y a aussi, dans ce cycle, alors c'est un peu plus délicat d'en parler parce qu'elles apparaissent au fur et à mesure, mais il y a aussi des créatures que l'on rencontre, même si elles vont se dévoiler petit à petit au milieu des humains, à commencer par le premier nommé, Manesh, dont on va découvrir le destin. Alors, sans trop en dévoiler, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de certaines des créatures qui sont présentes dans ce cycle?
Oui, donc c'est un cycle qui est garanti sans elfes, sans nains. Enfin, pour les nains, il y a une petite déclinaison à un moment, mais c'est pas pareil du tout. Les nains sont des géants comme les autres. Mais il y a par contre beaucoup des géants. Moi, j'aime beaucoup les géants, qui sont aussi une façon de magnifier certains aspects de la nature humaine, notamment des géants solaires et des géants lunaires. Les géants lunaires ont ceci de particulier qu'ils déclinent, ils croissent et décroissent avec la lune jusqu'au point de disparaître à la lune maigre, ou peut-être de se cacher, on ne sait pas très bien. Peut-être carrément de cesser d'exister. Et puis il y a les géants solaires qui débordent d'une énergie qui est une énergie solaire et donc qui est une énergie créatrice, qui est une énergie de bâtir, de mener les hommes. Et donc on a un des personnages centraux du récit qui est à moitié solaire, c'est-à-dire que son père là est un géant solaire qui... Bon, il n'y a plus beaucoup de géants solaires et ça implique qu'il n'y a pas plus beaucoup non plus de géantes solaires, ce qui fait que ce géant, le semeur de feu, a tendance à fricoter avec des humaines. Alors les bons moines d'ailleurs se perdent en hypothèses et en conjonctures sur la façon dont anatomiquement il s'y prend, comment c'est possible. Les plus spirituels de ces bons moines imaginent une union énergétique des lames, des langues de lumière phallique qui sortent de ce géant.
Tu sais qu'il n'est que 14h30 quand même.
Oui.
Et que c'est la journée des écoliers en plus.
Oui, mais je suis sur un sujet qui me plaît beaucoup et je n'entends pas m'arrêter de si bon chemin. D'autres imaginent tout simplement que ce colosse est doté simplement d'un appendice ridiculement blanc, petit. Tu ne me feras pas taire. D'un appendice ridiculement petit parce que ce sont des êtres avant tout spirituels, d'autres mis encore sur la plasticité féminine, enfin bref. Mais toujours est-il que l'enfant qui naît est généralement humain.
Je vais relire Manège, moi je crois.
Quand il ne tue pas sa mère à la naissance parce qu'il est trop ardent, cet enfant est généralement humain en apparence, mais il a dans cette fragile écorce humaine l'énergie colossale d'un géant solaire. Et alors, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de ce pauvre garçon, c'est que c'est pas un cadeau d'avoir une trop grosse puissance en lui. Il faut la gérer, il faut arriver à la maîtriser, et souvent elle déborde. Ça peut être nuisible pour les autres, ça peut être surtout nuisible pour lui. Il souffre du mal solaire quand il s'expose au soleil trop longtemps. Ce surcroît de lumière solaire qui s'ajoute à celle qu'il a en lui l'enflamme et ça le ronge littéralement de l'intérieur. Donc il doit se protéger du soleil jusqu'au moment où il trouvera le moyen de contrôler ou de dépenser cette énergie. Alors par ailleurs, il aimerait bien dire deux mots à son père qui repasse de temps en temps dans la forêt mais qui ne se laisse pas rattraper parce que voilà. Alors moi j'aime bien en fantasy, souvent on a l'image de l'orphelin abandonné parce qu'il est l'élu et que son papa était le papa de l'élu et que les grands méchants voulaient justement le détruire et qu'il devait sauver le monde. Là on est une espèce de Zeus, un géant qui est simplement un géant qui n'assume pas ce qu'il fait.
Un dieu coureur, voilà, dans tous les sens du terme.
Il est un peu que tard et il n'a pas du tout envie de se laisser rattraper par les conséquences de ses actes. Et ce qui m'amuse assez, parce que c'est un peu pendant une partie du récit, c'est « Papa, reviens ! Reviens ici que je te parle !» Non, pas question.
C'est vrai qu'il manquait un satyre dans la liste des voilà. Monstres qu'on avait là.
Voilà. Mais finalement, ce thème de cette force différente, plus grande peut-être, à contrôler, c'est un thème qui en fait revient très souvent en fantasy sous d'autres formes. Ce thème initiatique de « Je suis différent, je vais avoir plus de mal à atteindre l'équilibre que les autres. » Alors, c'est pas étonnant parce que les gens qui écrivent des livres sont des écrivains. Et les écrivains, déjà, ont tendance à se sentir assez souvent différents, ne serait-ce que dès l'enfance, parce qu'ils sont un peu partis dans leur monde. Voilà, et c'est pas toujours facile à vivre non plus, c'est pas toujours facile de grandir. C'est plus difficile de grandir en devenir harmonieux que d'autres choix de carrière, je pense. On peut même dire que c'est un choix de carrière complètement insensé, voire monstrueux. Voilà, mais donc c'est vrai que ce thème de le monstre, c'est aussi ça, c'est la différence, c'est je suis différent, c'est vraiment un des thèmes de la fantasy, je suis différent, mon chemin est différent, je dois me l'inventer, il va être semé d'embûches, mais je voudrais parvenir aussi à m'épanouir et à l'équilibre, mais ça sera plus dur pour moi.
Cassandra, la légende des quatre, elle s'adresse à des lecteurs, donc on a dit 12-14 ans.
Ouais.
C'est pas un hasard, c'est aussi une période de transition, oui. de passage.
C'est toute la. En fait, c'est pour ça que j'ai choisi des métamorphes, parce que c'est le moment de la transformation pour les adolescents. C'est le moment où ils subissent, il y a des grosses montées hormonales, il y a des transformations, des multiples questions, un malaise, un mal de vivre, etc. Et ces métamorphes, c'est ça, c'est très symbolique. Ces adolescents qui se transforment en animaux géants, bien évidemment, c'est la métaphore de la transformation de l'adolescent en grand garçon.
Et lorsque le roman s'ouvre, en plus, on voit, parce que ce sont aussi des fratries assez nombreuses hein, dans les clans, on a les aînés et puis on a les plus jeunes qui sont encore des enfants et qui finalement, eux, ils s'en foutent un petit peu qu'il y ait des différences, qu'il y ait des limites entre les clans. S'il a envie d'aller jouer avec un aigle alors qu'il est tigre, aucun problème.
Oui, alors ça c'est le cas de Mika, effectivement, le petit frère de Bregan. C'est pas le cas des autres qui sont beaucoup plus obéissants. Mais évidemment, il y a toujours un rebelle. Hein, ça, c'est obligatoire dans tous les romans. Et là, c'est Mika qui a 7 ans, qui lui s'intéresse uniquement absolument pas aux apparences, à quel clan il appartient, etc. Et qui va se lier d'amitié avec effectivement.
Il s'intéresse pas aux apparences, mais il est craquant comme tout. Quand
même. Il est craquant, mais c'est pour ça qu'il le tue pas. Ça commence le roman. Mika se perd sur le territoire des loupailles, des loups, et il devrait être tué. Il rencontre Maya, qui est l'héritière des loups. Et elle devrait immédiatement l'égorger. Ce qu'elle ne fait pas. Tellement il est craquant.
C'est le tigre poté, quoi.
C'est, voilà, c'est exactement ça. Et c'est justement cette espèce de tolérance de Mika, du petit, du plus jeune, qui est complètement inconscient, qui va faire que les grands, en fait, il va faire une sorte de liaison entre les grands, ceux de 16 ans, qui eux ne pensent de toute façon qu'à s'entretuer, qui sont des tueurs nés, qui n'ont aucune morale là-dessus, et qui va créer ces liens. C'est justement ce petit garçon qui va réussir à créer ces liens. Le fait que Maya déjà épargne l'enfant va créer un lien entre elle et Bregan. Outre les choses qui sont passées avant entre eux. Donc c'est toute l'évolution, voilà, c'est c'est sur la tolérance, le changement, voilà. Mais pour en revenir à ce que disait tout à l'heure Stéphane sur les dieux, les semi-dieux, etc. C'est, la mythologie, c'est très important. Là, pour le coup, on sera pas dans la mythologie au sens où on l'entend dans la légende des quatre. Dans Rebecca King, il y a une mythologie très forte. Et là, pour le coup, le semi-dieu, les semi-dieux et les dieux sont effectivement sur Terre, on le sait pas encore. Mais pour la légende des quatre, par exemple, non, mais pour le coup, la légende des quatre, on est sur la technologie. Et là, c'est autre chose. C'est-à-dire comment sont nés les yokai, c'est pas du tout d'une manière où la magie, etc. Là, on parlera plus tard de d'une naissance qui a été créée justement par les hommes il y a très très longtemps.
En tout cas, c'est voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir, d'équilibre à trouver, et puis bah évidemment, vous verrez que il y a une intrigue qui va se nouer autour de ces clans qui s'affrontent, et où finalement, bah il y a quand même encore quelques humains qui traînent par-ci par-là, mais qui voilà, qui sont juste là pour.
Justement, c'est le problème du point de vue. C'est-à-dire que pour les humains, les yokai sont monstrueux. Les yokai les empêchent d'avoir des armes, d'avoir de la technologie, d'utiliser les sciences, etc. Et pour les yokai, bien évidemment, ce sont les humains qui sont monstrueux. Ils ont détruit la planète, ils ont détruit leur habitat, ils se sont auto-détruits. Bref, en résumé, et là on est tout dans la question du point de vue, c'est-à-dire que les humains sont en grande partie responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et c'est justement toute la différence, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, est-ce que les yokai sont des monstres ou est-ce que ce sont les humains qui sont des monstres?
Alors les humains en particulier, ce sont les professeurs, mais qui ne s'appellent pas professeurs, ils ont quel titre? J'ai oublié, je ne me souviens plus.
Ah, je me souviens plus ce que j'avais mis.
C'est de retrouver parce que en fait, je me suis senti visé, c'est pour ça.
Ah c'est des mots. Ah oui, c'est les. Oui. Ben non, parce qu'on appelle plus ça professeur, parce que, somme toute, comme ils n'ont pas le droit d'utiliser les sciences, etc., ils ont des matières très limitées quand même. Hein, vous apprenez la poterie, la tannerie, des tas de trucs sympas. Éventuellement, les anciens langages, mais les livres ne sont pas vraiment autorisés non plus. Parce que les humains sont des bombes ambulantes. C'est-à-dire qu'ils sont. Ils les trouvent égoïstes, ils les trouvent monstrueux, les locaux, ils trouvent les humains monstrueux. Et ils ne voient absolument pas pourquoi ils ne seraient pas immédiatement éliminés. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour eux.
Les mémorateurs.
Les mémorateurs, c'est ça.
Je vais demander ça l'année prochaine sur mon badge.
Ceux qui détiennent la mémoire, exact. Et pour le coup, la mémoire, elle se transmet de plus en plus difficilement. On va s'apercevoir que le monde n'est pas aussi simple qu'on l'imagine.
David, on a donc cette rencontre. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas l'histoire d'une confrontation. En tout cas, pas s'il y en a une confrontation, c'est pas entre ces deux personnages-là. Entre ce jeune homme un peu idéaliste et ce roi qui sent la fin arriver. Il y a une perte de l'innocence quand même dans le roman. Vous parliez de tragédie tout à l'heure. Moi, pour moi, la vraie tragédie, c'est ça. C'est qu'on a un garçon qui est formidable, qui est génial au début, qui est ce Stig, qui pète la vie, qui a envie de la croquer, qui se fait une joie d'arriver dans cet événement dont il a tant entendu parler et auquel il a envie de participer, etc. Mais vous allez nous le démolir après. C'est moche ce que vous faites.
J'avoue. C'était un peu le but, hein, j'avoue aussi. Pour la petite histoire, mon roman précédent se terminait pas très très bien et je m'étais dit, donc c'est 2087, j'ai un post-apo, et je m'étais dit comment est-ce que je vais pouvoir faire pire. Et en fait, je crois que j'y suis arrivé sans y arriver, c'est très bien. C'est que effectivement, Stig est un personnage qui est un pied beau, donc il est boiteux, il est mal aimé par son père. Et en fait, au lieu d'être victime de ça, il a décidé de se laisser transformer par ça et de transformer ça en force. Alors c'est pas facile tous les jours, hein. Il gambade pas en se disant chouette je suis boiteux, il sait tout ce qu'il perd, il ne peut pas danser quand elle a fête, il ne peut pas être avec les jeunes gens, il aimerait être avec les jeunes gens qui sont bien dans leur corps, il sait qu'il ne peut pas, il en souffre du coup forcément, mais au lieu de rester dans cette souffrance, il s'est jeté corps et âme, et le mot âme est important parce qu'il a vraiment, je trouve, une belle âme en effet, dans toute la magie, toute la poésie, toutes les légendes de la clairière. Et il arrive en effet à cette fête du roi de l'hiver, avec tout cet amour pour ces terres, tout cet amour pour les légendes. La fête du solstice, c'est un moment où les conteurs viennent re-raconter à l'ensemble des clans l'histoire de leur monde. Alors, c'est une tradition très orale que j'aime beaucoup. Et du coup, il se dit que ça va être juste fantastique de participer à ça. Effectivement, ça ne se passe pas du tout comme les années précédentes et comme on lui avait raconté. Pour sa première fête de solstice, c'est juste dramatique. Effectivement, c'est une perte de l'innocence, mais je crois que c'est aussi et surtout un passage à l'âge adulte. Alors c'est un peu, le terme est un peu galvaudé, mais je crois que c'est le sujet qui m'a intéressé dans ce roman, c'est qu'est-ce que l'on garde et de quoi est-ce que l'on est dépossédé en devenant adulte. Stéphane a parlé un peu tout à l'heure que les auteurs, c'était un passage à l'âge adulte, c'était des fois un peu compliqué, mais parce que je crois que c'est un vrai sujet. Et du coup, ce roman parle du passage à l'âge adulte de Stieg, de ce qu'il doit sacrifier, très souvent à contre-cœur, parce que c'est lâcher quelque chose, c'est surtout quelque chose de l'ordre de l'enfant, c'est terrifiant, c'est très douloureux, mais il y a aussi et surtout qu'est-ce que l'on refuse de lâcher. Et moi, je trouve que c'est un acte d'un grand courage, d'une grande beauté, quand on est malmené par la vie, à un moment, de s'opposer et de dire stop, ça je ne le lâcherai pas. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément, et c'est là où Stieg, avec ce personnage qui est effectivement, je trouve, d'une grande beauté intérieure, c'est là où je suis admiratif de ce petit bonhomme de 20 ans, c'est que il dit non. Il dit non malgré tout ce qui se passe. Et je crois que c'est aussi ce que je voulais raconter. Et du coup, cette histoire, quand je disais tout à l'heure que je voulais faire pire que mon précédent, je crois que j'ai réussi à faire pire. Et en même temps, j'ai réussi à montrer que dire non, c'était... Ça, pour moi, c'est salvateur, et je crois que ça l'est dans ce roman. Mais c'est pour ce
on en discutera après. Mais on en discutera après. Mais moi, je suis pas d'accord sur la fin noire. Oui, mais je la trouve plutôt optimiste. Mais
alors, je suis complètement d'accord avec ça. Mais tout le monde n'est pas d'accord.
Mais voilà. Enfin bon, malheureusement, on peut pas. Enfin, vous pouvez venir pour ceux qui ont lu le livre et qui ont envie de partager la discussion, mais pour les autres, il va falloir lire le bouquin et vous faire votre propre avis. Mais enfin, oui, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette fin assez ouverte, finalement, hein, même si le livre est un one-shot, je pense.
Oui, moi, je rêve, dans l'idée, dans le rêve de l'auteur, j'aimerais énormément faire toute la vie de Stieg. C'est-à-dire que Stieg, il est jeune homme dans ce roman, et c'est vraiment ce passage à l'âge adulte. Après,
donc, ces questionnements ne sont pas anodins, en plus. Ils pourraient influer vraiment, sur l'auteur.
Non, ils sont vraiment pas anodins, oui. Vous pouvez je suis corruptible. mais oui,
je vais aller chercher des dragons.
Ça marche très bien avec les dragons. Ouais. L'idée aussi que j'ai moi dans l'esprit, c'est de voir Stieg jeune homme, de voir Stieg homme jeune, de voir Stieg en homme mature et Stieg vieillard. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est un monde que j'aime beaucoup. Donc après, parlez-en à mon éditeur pour la suite.
Et peut-être a-t-on déjà vu.
Oui, ouais, je te le, ça marche encore mieux.
Mais peut-être certaines réponses sont-elles déjà dans ce livre-là en plus. Éric Hamon, est-ce que vous avez envie, après cet éveil des chimères, de créer un univers ou de créer vraiment un univers romanesque qui soit où vous suiviez un personnage justement sur un plus long terme, comme le dit David, ou est-ce que vous vous sentez nouvelliste dans l'âme?
Alors en fait, ce qui va se passer, c'est déjà en train de se passer. On va retrouver certains personnages pour une histoire plus longue. Dans l'éveil des chimères, on va suivre déjà trois chapitres qui s'intitulent La confrérie, qui sont une bande de hors-la-loi, mais qui sont des humains. Mais là déjà, on étudie un peu le thème du monstre, mais qui est humain, puisque le hors-la-loi, c'est celui qui est à la marge de la société, qui est le paria. Et qui abrite parmi eux une créature humanoïde qui arrive à cacher son jeu en quelque sorte. Et ça fait déjà trois textes, ce sont les plus longs d'ailleurs. Le plus long de plus long, c'est un petit roman. Mais on pouvait encore raconter plus, et donc il y aura plus. Où on va s'intéresser à comment vivent tous ces hors-la-loi, comment ils vivent entre eux. Parce que c'est pareil, les relations humaines, même dans une bande d'amis, eh bien, il y a des dissensions, il y a des engouements, et ça passe et ça change. Et puis comment font-ils aussi pour résister, pour dire non à la société contre laquelle ils se battent, puisqu'ils habitent dans un royaume un petit peu tyrannique et où il n'y a pas beaucoup de liberté. Et donc qu'ils essayent de s'opposer un petit peu. Et on va suivre ça sur une période beaucoup plus longue. Là, c'était, il y a cette dynamique presque de nouvelle, donc l'obligation d'aller au plus vite.
Un côté presque photographique, finalement, on prend un instant.
Un instant, ou en tout cas une période brève, même si je crois que je raconte quand même, il y a un texte où je fais un peu un cours d'histoire sur 1000 ans, mais donc c'est une période brève mais assez longue.
Tout est une question d'échelle.
Voilà, tout est relatif. Mais donc là, oui, ça va se passer sur plusieurs années et on va en savoir un peu plus et ce sera véritablement un roman et on pourra lui mettre une grosse étiquette roman.
Très bien, et là il n'y aura donc pas les questions stupides que vous pose le modérateur en entrée de table ronde. Merci beaucoup en tout cas tous les quatre, merci de nous avoir fait découvrir vos univers, on l'a vu, très différents, pourtant à la fois parfois complémentaires, qui s'adressent à différents publics, à différents lecteurs, avec différentes ambiances. J'espère que vous aurez envie de découvrir ces lectures, ces ouvrages, ces personnages également, et puis que on regardera ces créatures surnaturelles, ces monstres, puisque le mot s'est imposé à nous au fur et à mesure, d'un œil différent et peut-être avec une certaine bienveillance, une certaine tolérance, pour reprendre le mot de Cassandra tout à l'heure. Merci beaucoup à vous d'être resté avec nous. Et évidemment, vous retrouvez nos auteurs sous la bulle du livre pour continuer les discussions et éventuellement vous faire dédicacer leurs ouvrages. Merci beaucoup.